une chose que j'ai remarqué, c'est que il y avait beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à leur objectif parce que le stress était trop élevé dans leur vie, il y avait trop de pression et leur système nerveux était complètement déclenché la majorité du temps.
Mon nom est Pierre-Hugues Geoffroy et je vous souhaite la bienvenue à mon podcast La Force de changer. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme de balado-diffusion préférée. La Force de changer est propulsée par les centres Humanovo, spécialistes de la perte de poids et de la motivation à l'entraînement. Ici, on vous motive à être en forme et à le rester. On parle de sujets qui vous touchent, on rencontre des gens qui ont transformé leur vie et on s'entretient avec des professionnels de différents horizons.
Content de recevoir Jean-François Thibault. Bonjour, Jeff.
Salut, comment ça va, Pierre-Hugues?
Ça va super bien, toi?
Ben ouais, super, content d'être là.
All right, hey, on va avoir une belle demi-heure, 45 minutes, heure avec vous. J'ai eu la chance d'être coaché par Jeff au tout début de la pandémie, puis il m'a accompagné, pas par rapport à la pandémie, mais à mon cheminement professionnel comme leader. J'ai adoré mon expérience. Jeff, t'as commencé à faire de l'entraînement en force, tu as été propriétaire d'un gym, tu as fait de la posturologie, de la santé globale, de la thérapie manuelle. Maintenant, tu es coach exécutif et en santé globale. On va explorer ton parcours. Donc, dis-moi, Jeff, comment tu as commencé ta carrière d'entraîneur? Comment ça a débuté pour toi?
Hey, écoute, ma carrière d'entraîneur, ça a commencé en fait en 2004. Puis, qu'est-ce qui m'a plongé dans le monde de l'entraînement? Ça a été en fait de me rebâtir moi-même. Donc, okay. À l'âge de 20 ans, j'ai, comme plusieurs adolescents, tombé dans le milieu des bars, des restaurants. Puis je me suis mis à travailler dans ces milieux-là. Et ça m'a amené à fréquenter des gens qui m'ont influencé à rester dans ce milieu-là aussi. Puis, comme plusieurs personnes, mais je me suis un peu perdu là-dedans. Puis, à un point dans ma vie où j'étais dans la consommation, puis c'était quelque chose qui était présent tous les jours, jusqu'à un moment où ce que j'ai eu le goût de m'enlever la vie. Puis, quand j'ai eu cette prise de conscience-là qui revenait à tous les jours, j'ai commencé à me poser des questions jusqu'à un moment où j'ai pratiquement passé au geste. Puis, j'ai eu, à ce moment-là, c'est comme le film La Matrice, là, au ralenti, une prise de conscience de qu'est-ce qui allait arriver si je faisais ça, puis comment les gens dans mon entourage, mes parents, mon frère, ma famille, allaient réagir. Puis, il y a quelque chose en dedans de moi qui s'est dit « je peux pas leur faire ça ». Puis, à ce moment-là, j'ai pris un pacte avec moi-même que si la vie continuait, ça pouvait pas continuer de la façon dont ça allait dans le moment. Et de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour m'en sortir. Et la façon dont j'ai fait ça était un peu extrémiste. J'ai dit « je vais faire un 180 puis je vais partir de l'autre côté ».
OK, donc, fait que ça a été cette épiphanie-là.
Ça a été cette épiphanie-là qui, tu sais, je veux dire, je m'entraînais déjà, mais ça a été un moment, un aha moment ou un moment décisif dans ma vie où j'ai décidé de complètement reprendre ma vie en main à tous les niveaux. Puis une des premières choses que j'ai faites, c'est commencer à faire du ménage dans les gens avec qui je passais le plus de temps, qui m'influençait le plus. J'ai réalisé que j'étais fortement influençable, puis de me séparer de ces gens-là, puis commencer à créer des liens avec des gens qui m'inspirent, avec des gens que j'aspire à devenir. J'ai commencé à passer plus de temps avec ces gens-là, puis j'ai été chanceux de rencontrer un culturiste qui était passionné par l'entraînement. Il a accepté de me coacher pour faire ma première compétition de bodybuilding et la seule que j'ai faite. Donc, il a accepté.
Je savais pas que tu avais fait une compétition de bodybuilding.
Ben ouais, j'ai fait une compétition de culturiste, c'est ça, en 2004. Et c'est en fait la passion que cette personne-là avait pour le dépassement de soi qui me donnait le goût d'être coach. Après ma compétition, tu sais, la compétition de culturiste, pour moi, ça a comme été une détox où j'ai pu prendre 3 mois. Plus sortir, plus consommer, juste faire mon alimentation, plus aller au restaurant, juste m'entraîner, puis manger, puis dormir. Littéralement, là, je me suis comme créé une propre retraite pour moi. Puis après ma compétition, j'avais pas le goût de retourner où j'étais avant. Donc, je voulais juste continuer dans cette voie-là. Puis, c'est là que j'ai commencé à être curieux de, bon, comment je peux faire ça, moi, devenir coach? Puis, j'ai tout le temps eu en dedans de moi le désir d'avoir un impact significatif puis de le faire rapidement, tu sais. Donc, j'ai commencé à le demander. Puis, il y avait mon massothérapeute, en fait, dans ce temps-là, Richard Bourgon, qui commence à me parler de Charles Poliquin. Puis, il dit, ah, j'ai appris de ce gars-là en 96. Là, il est rendu aux États-Unis. Puis, donc, moi, j'ai fait, il est rendu où aux États-Unis? C'est quoi son numéro? Je l'ai appelé. Puis j'ai commencé avec Charles Poliquin en premier. J'ai été faire un internat en Arizona avec des joueurs de la NHL, des joueurs de la NFL qui Charles, en fait, avait dans son centre. Donc, j'ai commencé à apprendre d'un des meilleurs dans le monde d'entraînement de force et de fil en aiguille.
Je t'arrête un instant. Ben, donc, oui. Tu as 20 ans, tu as ce aha moment, comme tu as dit, et après ce moment-là, tu t'inscris à une compétition pour faire du culturisme et tu as eu ce 3 mois vraiment de retraite intérieure. À ce moment-là, tu travaillais pas. Tu t'occupais uniquement.
Ah oui, je travaillais. Je travaillais, mais toujours je faisais rien d'autre que travailler. Puis, donc, j'avais comme carrément coupé toutes mes activités sociales.
OK. Et là, dans le fond, après cette compétition-là, est-ce que tu travaillais encore dans les bars ou...
Ouais, ben après, c'est ça, j'ai continué, mais là, c'est là que je suis devenu... Ça a pas pris de temps, en fait, tout de suite après ma compétition, qui était en juin. En juillet, j'ai commencé à faire un premier cours qui était la biosignature. Premier cours que Charles a donné dans sa carrière sur la biosignature. Puis ensuite, j'ai été en Arizona un mois après. Puis ensuite, ben j'ai commencé à entraîner des gens... comme ça, travaillais encore, mais j'ai commencé à entraîner des gens dans des gyms. Puis un an après, j'ai vraiment parti mon bureau au centre-ville à Montréal, où là, j'ai transitionné à ne faire que ça. J'ai fait le saut.
OK. Donc, tu ouvres ton bureau après un an de pratique, aller dans les gyms. À ce moment-là, c'était quoi le nom de ton bureau? Puis c'était quoi un peu là, ta philosophie là, à ce moment-là?
À ce moment-là, c'était le nom de mon bureau. C'était un peu dans la philosophie, justement, de Charles Poliquin avec son Poliquin Performance Center. J'avais appelé le centre Optimal Performance Training Center, OPTCM.
Okay.
Je vois encore le logo dans ma tête sur mes cartes d'affaires. Fait que j'ai roulé sur ce nom-là pendant environ 3-4 ans. Puis ensuite, je lisais des livres de personal branding, puis j'ai lu You Inc., puis le gars Harry Beckwith m'avait beaucoup inspiré, puis c'est là que j'ai changé mon branding à JFT International.
OK.
Parce que moi, je voyais ça big. Moi, je voulais que ça soit international, je voyais ça big, puis j'ai changé ça à JFT International, puis ça a comme fait un gros coup dans l'industrie où beaucoup de gens étaient là. Il se prend pour qui, lui? Il s'appelait international.
Ben non, je comprends.
Ça m'a fait connaître, en fait, d'appeler mon entité corporative ce nom-là.
Puis à ce moment-là, t'entraînais quel genre de client? C'est quoi ta clientèle dans OPTC? OPTMC?
OPTCM.
OPTCM.
J'ai toujours eu une clientèle d'affaires parce que j'étais au centre-ville. Donc, les gens qui venaient à ce gym-là étaient des gens qui travaillaient dans les tours à bureau. Donc, j'ai toujours eu une clientèle d'affaires de gens qui étaient justement des gestionnaires ou des entrepreneurs. Donc, ça a comme commencé comme ça. Puis, c'est aussi eux qui avaient les moyens de se permettre de l'entraînement privé, des services privés 3-4 fois par semaine. Donc, j'avais beaucoup de clients qui s'entraînaient au moins 3-4 fois par semaine. Donc, j'ai commencé vraiment à entraîner des gens de façon hyper intensive. Tu sais, dès ma première année que j'ai ouvert mon bureau, j'ai monté mon carnet de rendez-vous. Je faisais 40 à 45 entraînements par semaine.
Alors, pour ceux qui savent pas, comme entraîneur, faire 40 à 45 entraînements par semaine, c'est hyper drainant. J'imagine qu'après ces premières années-là, tu l'as ressenti aussi, là.
Ben, j'étais jeune. J'étais capable d'en prendre.
Donc, t'as roulé au PTMC, au PTCM pendant 3-4 ans. Après ça, c'est devenu GF International. T'étais toujours dans l'optique de Poliquin à ce moment-là?
Ouais, ben en fait,
comment ça a évolué, en fait, excuse-moi.
Mon parcours, c'est que Poliquin, je l'ai suivi pendant au moins 7-8 ans au début de ma pratique, mais il y a eu une forte influence sur moi, dont en fait aller apprendre la thérapie manuelle. Une des choses que j'avais réalisé beaucoup, c'était que tous mes clients avaient des blessures. Je l'envoyais voir différents thérapeutes, mais les thérapeutes ne me revenaient jamais avec des constats. Donc, j'ai décidé de le faire par moi-même et de devenir aussi thérapeute. Donc, j'ai fait mon cours de massothérapie. Ensuite, j'ai été étudier une technique qui s'appelle le Active Release Technique, le ART, qui est une technique de spécialisation pour traiter les blessures musculo-squelettiques comme des tendinites, des bursites, des adhérences musculaires, des spasmes. Donc, j'ai été étudier le ART et là, je me suis mis à faire un hybride entraînement et thérapie manuelle. Donc, j'avais un bureau assez grand pour faire aussi de la thérapie dans mon bureau et entraîner. Donc, je suis devenu comme une personne qui avait plusieurs cordes à son arc et qui avait beaucoup de connaissances, autant le niveau anatomique du côté thérapeutique que le niveau biomécanique du milieu de l'entraînement. Donc là, ma clientèle s'est mise à monter encore plus. Puis il y a des semaines que j'ai monté à 50-55 heures de rendez-vous avec des clients, ce qui est énorme. Je ne sais même pas comment je faisais.
Non, non, t'as passé de 40 heures d'entraînement à 40 heures d'entraînement, puis 20 heures de thérapie. Donc, moi, j'ai commencé à te suivre. Je pense que tu terminais Jean-François International, puis ouais. À quel moment Axelite a pris forme?
En fait, Axelite a pris forme parce que j'ai été faire le parcours élite à l'école d'entrepreneurship de Beauce dans la cohorte 3 en 2011, de 2011 à 2013. Et à l'école, mais là, veux pas, on travaille sur nos entreprises, on se fait challenger. Et là, une des personnes qui était dans ma cohorte faisait justement des changements d'identité corporative, du branding, l'image de marque. Puis là, ben, il m'a en fait influencé et convaincu à changer mon image de marque, étant donné de l'étendue que je voulais avoir avec mon image de marque. GFT, c'était beaucoup moi, c'est beaucoup identifié à moi, et je me suis rendu compte que je voulais pas vraiment être la personne qui était mise de l'avant, puis je voulais que ça soit l'équipe qui soit plus mise de l'avant, l'entreprise. Donc, on a changé mon nom à Axelite. Et Axelite, en fait, c'est la contraction du mot axe et élite, donc Axelite, axé sur l'élite. Et l'élite, dans notre philosophie chez Axelite, c'est les gens qui passent à l'action et qui se prennent en main et aussi qui influencent les autres à faire la même chose. Donc, ça n'a aucune connotation avec l'élite financière, mais c'est vraiment l'élite de la société qui sont l'exemple à suivre d'une personne en santé et d'une personne qui a du succès dans la vie, puis pas du succès juste au travail, mais dans sa vie personnelle, dans sa famille.
J'aime ça t'entendre le dire. Avec toutes les discussions qu'on a eues dans la dernière année, je t'avais jamais entendu expliquer pourquoi tu avais choisi Axelite, puis comment tu l'écrivais, en fait. Je trouve ça super. Donc, combien de temps tu as été propriétaire d'Axelite Santé Globale? Parce que je sais que ça s'est transformé un peu, mais...
Santé Globale existe toujours. C'est que la structure de l'entreprise s'est beaucoup transformée. Axelite, le nom est arrivé en 2012. Donc, depuis 2012, on s'appelle Axelite Santé Globale. Et le centre de Santé Globale sur la rue Guy à Montréal a été, en fait, de 2009 à 2015, décembre 2015. Et ensuite, okay, c'est une restructuration de l'entreprise en 2015. Donc, le centre, je l'ai eu pendant 6 ans à Montréal.
OK. Donc, tu as fait de la thérapie manuelle principalement, puis de l'entraînement. Tu as bâti une équipe. Aujourd'hui, tu es coach exécutif en santé globale. Ça a été quoi la transition qui t'a amené plus vers le leadership, là? Parce qu'il y a quand même un gap entre faire du ART, de la massothérapie, puis coacher une équipe de leaders ou dirigeants pour optimiser leur style de vie dans le but de mieux performer dans leur vie personnelle et professionnelle. Je crois que ça ressemble un peu à ça. Je vais te laisser le dire dans tes mots à toi. Ça a été quoi, là? Il y a eu...
Une chose que j'aimerais mentionner aussi, c'est que depuis le début de mon parcours, tout l'aspect aussi style de vie puis nutrition était vraiment présent. Donc, à partir du début, donc beaucoup... je fais beaucoup de cours en médecine fonctionnelle et beaucoup de cours justement aussi en approche psychologique avant de faire mes certifications de coaching professionnel. Donc ça a toujours été cette approche-là, un plus global avec le client qui a toujours été présent. Et comme mes clients étaient tous des leaders, des entrepreneurs, je voyais le style de vie qu'ils menaient. Puis pendant que j'étais à l'école, j'avais un désir d'amener quelque chose de différent dans les entreprises pour aider les gens à augmenter leur prise de conscience d'eux-mêmes et d'avoir aussi en entreprise, dans leur milieu de travail, des initiatives pour susciter cette prise en charge de soi. Mais on a découvert que c'était la santé, c'était tout le monde veut que ses employés soient en santé, mais personne ne veut investir beaucoup là-dedans. Okay? Mm. Donc, et c'est ça la réalité en ce moment du monde des affaires. Et maintenant, en fait, on s'est mis à étudier plus le leadership et on s'est rendu compte que dans le leadership, il y a des nouveaux paradigmes de leadership. Donc, le leadership maintenant, ça se décline en trois grandes familles. Okay? Il y a le leadership de soi. Donc, comment se gérer soi-même. Et ça, c'est plus là où nous, on se situe. Puis, on va en reparler. Après ça, il y a le leadership des autres. Comment je peux faire pour bien diriger mon équipe? Et après ça, il y a le leadership des systèmes. Comment je peux faire pour bien digérer? Comment je peux bien faire pour bien diriger les systèmes à travers mon entreprise ou les multiples entités?
Okay, donc on a François, je t'arrête une petite minute. Tu as dit que tu avais pris conscience que les leaders, les entrepreneurs, les dirigeants qui venaient te consulter n'avaient pas un style de vie qui était optimal. Puis, tu as travaillé pour, tu l'as dit, pour qu'ils soient davantage conscients d'eux-mêmes. Ouais. Dirais-tu que les gens ne sont pas conscients? Qu'est-ce qui est la nuance là entre leur style de vie et où tu les amènes?
Ben, en fait, c'est que la conscience de soi n'est pas une compétence qu'on a appris dans nos milieux académiques. Mm. Donc, c'est normal qu'être conscient de nous-mêmes et de s'observer n'est pas facile parce qu'on ne l'a pas appris.
Je comprends.
OK? Donc, c'est une des facettes que moi, j'ai appris dans mon propre développement à m'observer, à être conscient de mes états émotionnels, à être conscient de mes pensées, à être conscient de mes comportements, de l'impact que mes comportements ont sur les autres, de l'impact que mes comportements ont sur moi. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris et qui a été complètement transformationnel dans ma vie. Donc, et ça, c'est l'histoire de ma vie. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appliqué sur moi pour voir l'impact que ça avait, pour ensuite l'appliquer sur les autres. Parce que ça fonctionnait sur moi. Mais j'ai jamais été de l'avant avec quelque chose qui n'a pas fonctionné sur moi parce que je n'étais pas convaincu à 100% puis je ne l'incarnais pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important pour moi. C'est d'être l'incarnation de ce que je veux amener dans le monde.
Tu es ton propre cobaye sur tout ce que tu as appris dans les meilleures années.
Oui, j'étais le premier à le tester.
C'est super comment tu amènes cette nuance-là. Dans le fond, tu sais que c'est pas une compétence qu'on développe. Et que toi, tu t'es attardé dans ça. Donc, le leadership, pour toi, c'est beaucoup développer cette conscience de qui on est, comment on sent, comment on réfléchit, comment on voit la vie des autres.
Ouais, donc c'est... Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait du leadership de soi, en fait, donc pour rattacher le fil conducteur de tantôt. Donc, moi, je me suis tourné vers le leadership de soi parce que, premièrement, je savais même pas que ça existait, le leadership de soi. Donc, non, pour moi, je savais même pas que c'était quelque chose qui était vraiment une entité et qui se donnait, en fait, en entreprise. Puis ça fait pas longtemps, hein, tu sais, ça fait depuis peut-être... Les balbutiements du leadership de soi, là, c'était 2010, 2011, 2012. Là. Donc, quand nous, on a commencé en 2014 à étudier, c'était vraiment dans les débuts là, de ce concept-là, ce nouveau paradigme de leadership. Là, les grandes entreprises commençaient à être intéressées à recevoir la formation en leadership de soi, leadership des autres, leadership des systèmes. Donc là, il y avait une compréhension dans plusieurs entreprises où les gens en poste étaient plus conscients de ce qui se faisait, étaient plus au courant des dernières tendances. Et c'est là qu'on a commencé à travailler avec des entreprises comme le Cirque du Soleil, par exemple, avec qui on a commencé à travailler en 2016. Donc, qui était précurseur dans cette tendance-là. d'amener les gens vers un parcours complètement différent de leadership, où le leadership avant, c'était un enseignement de technique sur comment déléguer, sur comment coacher les gens, sur c'était très orienté vers les équipes, comme si le leader, lui, était déjà arrivé.
Je comprends.
Comme si lui, il n'avait pas vraiment à travailler sur lui. Puis c'était plus à propos de « faut que je développe des compétences pour être capable de gérer les autres ».
Mais le leader en soi n'était jamais adressé.
Exact. C'était la grosse lacune, en fait. Parce que si je ne suis pas capable de me gérer moi-même, j'ai beau avoir un plan, un processus en étape 1, 2, 3, mais si je suis complètement déclenché dans une irritation, dans une impatience ou dans une émotion de frustration, je vais être incapable de suivre le plan. Parce que je suis complètement sur mon pilote automatique, en mode de protection, à essayer de défendre mon ego.
Ça fait plein de sens ce que tu dis. On revient à Axelite. Tu as commencé à vouloir développer cette conscience de soi chez tes clients, ou du moins il y avait cette prise de conscience-là. Comment s'est faite la transition entre ton chapeau de thérapeute manuel puis de coach dans un environnement de gym à un environnement de coach exécutif? Ça doit être quand même un changement d'image de soi ou de casquette assez complexe à changer. Parle-moi un peu de cette transition-là, comment ça s'est fait?
Oui, mais ça a été... en fait, je me suis réinventé plusieurs fois dans ma carrière.
T'étais rendu habitué, il faut croire.
Il y a une certaine habitude qui se développe, mais à chaque fois, c'est un deuil. À chaque fois, c'est un deuil identitaire de changer de rôle. Donc, quand j'ai changé, quand j'étais dans mon centre, à un moment, j'ai arrêté d'entraîner complètement pour juste faire de la gestion. Donc, ça a été aussi... un deuil de laisser aller mes clients puis de donner tous mes clients à mes entraîneurs pour moi me sortir de ça. Donc ça a été mon premier deuil vraiment que j'ai eu à travailler. Puis ensuite, ça a été le deuil de restructurer l'entreprise parce que qu'est-ce qui est arrivé quand j'ai rencontré ma femme en 2013? J'étais encore à l'école d'entrepreneurship et c'est avec elle, puis c'est vraiment important de le mentionner, que je partageais mes idées, mon désir de faire amener cette prise de conscience-là en entreprise. Et elle était en entreprise, en grande entreprise, et elle vivait, en fait, était ma cliente parfaite. Puis je l'ai aidée à rebâtir justement sa santé, à augmenter sa conscience. Puis aussi, on a fait d'autres formations ensemble, mais elle avait ce désir-là d'aller en entreprise et aussi d'avoir un impact. Puis avec son expertise de base, elle est formatrice. Ça faisait 15 ans qu'elle enseignait la formation en entreprise. Elle avait touché un peu au leadership classique. Elle enseignait beaucoup la formation en vente et elle voyait tous les gens dans ses cours qui étaient en déficit énergétique, qui étaient stressés, qui avaient de la difficulté à justement diriger leur équipe, à se gérer eux-mêmes. Puis c'est là qu'on s'est dit... on doit créer quelque chose ensemble. Puis c'est en 2015 qu'on a créé notre programme de leadership de soi qui s'appelait Énergie, Leadership et Performance. Donc, on a créé ça ensemble. Puis là, ben, mon désir de d'enseigner ce programme-là puis d'aller développer les affaires était rendu plus grand que l'énergie que j'avais à développer mon centre. Puis là, j'ai eu besoin de faire un choix parce que c'est important de mentionner qu'à ce moment-là, j'avais aussi une école de formation continue pour les entraîneurs et j'avais aussi un traiteur de repas santé. Je m'occupais de 3 entreprises à ce moment-là.
J'étais occupé, là.
j'étais un petit peu occupé. J'étais un petit peu occupé, donc j'étais très, très, très occupé. Puis, à un moment donné, je suis tombé dans un creux énergétique moi-même parce que j'avais beau être jeune, à un moment donné, ça m'a rattrapé. Puis... là, j'ai dû vraiment me poser des questions. Qu'est-ce que je fais? Je dois absolument enlever des choses dans mon assiette parce que là, mon assiette est pleine puis il y a une montagne. Là. Ça ne fonctionne plus. Je dois absolument changer quelque chose. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de vendre mes parts dans mon école de formation pour entraîneurs à ma partenaire qui, en fait, roule encore l'école aujourd'hui qui s'appelle l'Institut Soma Training. Puis elle est vraiment passionnée, est ostéopathe de formation et est vraiment passionnée dans l'enseignement de l'exercice physique et des exercices correctifs. Donc, elle a continué. Je suis vraiment content que ça existe encore. On a vendu notre clientèle dans notre traiteur de repas santé. Puis ensuite, j'ai décidé de restructurer mon entreprise, mon centre de santé globale pour finalement me libérer de mon 4500 pieds carrés sur la rugby, puis garder l'entraînement. Donc, j'ai gardé mes entraîneurs, mais mes entraîneurs entraînaient mes clients dans un autre centre de privé qui était beaucoup plus petit que le nôtre, mais à 2 minutes. Et moi, j'ai pris des bureaux qui étaient à 5 minutes de ce petit centre-là pour continuer à faire mon coaching, continuer à faire ma thérapie manuelle et amener un ostéopathe qui travaillait avec moi et mon adjointe pour continuer à rouler Accès de santé globale, mais à une échelle beaucoup plus petite, beaucoup moins prenante pour moi. Donc, j'avais plus de temps pour m'investir dans les programmes de leadership qu'on a commencé à enseigner justement en 2016.
Donc, tu as commencé en 2016 à enseigner le leadership avec ta femme et tu faisais encore de la thérapie manuelle.
Absolument.
L'entraînement faisait plus partie de ta vie, mais tu gérais encore le centre.
Je gérais encore le centre et j'ai vendu en fait l'entraînement, le secteur de l'entraînement à mes entraîneurs en 2017. Donc, eux sont partis à leur compte avec la clientèle et moi, là, je me suis libéré complètement de cette charge-là en 2017. Donc là, j'étais juste concentré sur mon coaching, ma thérapie manuelle, un peu de gestion, mais beaucoup plus sur l'enseignement de mes programmes de leadership avec Katharina.
Ah, c'est tout un parcours, Jean-François. Quel âge as-tu, si c'est pas trop indiscret?
38, je vais avoir 39 là, dans un mois.
Ding, ding! Il ouais. reste encore un an dans la jeune trentaine. Ah, c'est tout un parcours, franchement. C'est super inspirant puis intéressant de t'entendre. Merci pour ton partage, Jean-François. Maintenant, parlons de ce que tu fais actuellement. Comment tu définis ton rôle, ton travail, ton titre, l'impact que tu as? Comment ça se passe? C'est des groupes, c'est individuel, c'est en entreprise? J'ai envie de comprendre, là, ben, on a envie de comprendre. Je parle pour les gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Puis c'est quoi la forme que ça prend?
Donc maintenant, en fait, depuis le début de la COVID, ben là, veux pas, on enseignait avant en présentiel. Donc on donnait de la formation de 2 jours consécutifs en personne, des grands groupes. Donc, pandémie oblige que ce modèle-là est complètement désuet. On a dû se réinventer. Justement, l'année passée, en mars, on avait un calendrier pratiquement rempli pour l'année et on a perdu tous nos contrats. Donc, ça a été vraiment, vraiment difficile. Au début, très stressant, très frustrant. Comme beaucoup d'entrepreneurs ont vécu et probablement le vivent encore pour certains. Nous, on a eu l'opportunité de se réinventer avec un modèle virtuel de formation où on a pris notre formation de 2 jours et on l'a brisé en fait en différents modules, en différentes interventions. Où maintenant, on a commencé au début de la pandémie à faire notre programme sur 6 séances. Et maintenant, on a bonifié notre programme sur 12 séances. Donc maintenant, au lieu d'être un 2 jours intensif où ce que tu bois d'une hausse de pompier, c'est un peu désorienté quand tu sors. Là, c'est un programme de 12 semaines, donc 3 mois où on a des interventions à tous les semaines avec nos participants. Et ça, c'est des séances qui durent de 90 minutes à 3 heures, tout dépendamment des modules. Donc, c'est des séances beaucoup plus faciles à digérer où maintenant les gens ont l'opportunité d'apprendre des concepts et des pratiques et à les mettre en action la semaine qui suit pour la semaine suivante, revenir puis pouvoir partager, discuter avec les gens qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, c'était quoi les challenges, c'était quoi les victoires de la semaine, puis continuer à apprendre d'autres théories, d'autres concepts. Donc, c'est vraiment plus propice à l'apprentissage et au développement, le modèle virtuel. Donc, nous, sincèrement, on ne reviendra pas en arrière. Parce que le modèle actuel est beaucoup plus adapté à ce qu'on veut générer comme impact et comme résultat chez nos leaders.
Qu'est-ce qu'on apprend dans un programme de 12 semaines sur le leadership de soi? C'est quoi les thèmes qu'on apprend? Puis comment on fait évoluer la conscience, comme tu dis, d'un individu pour être plus performant, avoir plus d'énergie? C'est quoi le processus?
Donc, le programme maintenant s'appelle Propulse ton leadership en français, en anglais Lead Yourself Up. Donc, c'est l'objectif est de nous propulser en tant qu'humain, littéralement. On a la croyance que pour être efficace à diriger les autres, il faut d'abord savoir se gérer soi-même. Donc, dans un programme de leadership de soi, dans notre programme de 12 semaines, en fait, on va aborder beaucoup la gestion de l'énergie et non la gestion du temps. Okay? Donc, on brise le paradigme de passer de vouloir juste gérer son temps avec son horaire, son calendrier, à gérer son énergie. Parce que si on n'a pas d'énergie, ben peu importe ce qui est planifié, ça n'arrivera pas. On ne sera pas capable de le réaliser. Okay? Donc, de passer de la gestion de l'énergie et, en fait, la gestion de l'énergie est directement reliée à la résilience aussi. Okay? Puis, on pourra reparler un peu de résilience, mais je le mets là juste pour piquer la curiosité.
Et on le met en veilleuse, on va y revenir.
Certains auditeurs en ce moment. Donc, okay. Donc dans le programme de gestion d'énergie, notre objectif, c'est vraiment d'amener les leaders à prendre conscience d'eux et à tirer sur des leviers pour s'aider à régénérer leur énergie plusieurs fois durant la journée au quotidien. Okay? Donc, on brise aussi le paradigme de on se donne, on grind 15 heures par jour pendant 2 mois pour ensuite prendre une semaine de vacances. Non, la gestion de l'énergie, c'est au quotidien que ça se passe. Okay? Et ça se décline sur 4 dimensions. Donc, la première dimension, c'est la physique. Donc, plusieurs probablement de tes auditeurs étaient vraiment dans ce créneau-là. Donc, la dimension physique, donc la nutrition, l'entraînement, le sommeil, l'hydratation, qui sont tous des facteurs hyper importants pour permettre au corps de bâtir une capacité d'énergie adéquate pour être capable de faire face aux défis qu'on a durant la journée. Et notre capacité de bâtir de l'énergie, donc la quantité d'énergie qu'on est capable de produire dans une journée, va affecter directement la qualité de notre énergie. Okay? Donc, qui nous amène à la dimension émotionnelle. Donc, la dimension émotionnelle, c'est vraiment nos émotions, c'est la qualité de notre énergie. Okay? Est-ce que je vis des émotions qui sont régénératrices la plupart de ma journée ou je vis des émotions qui sont drainantes? Comme exemple, l'irritabilité, la frustration, la peur, la colère, qui sont des émotions qui vont être plus drainantes. Et l'appréciation, la gratitude, l'optimisme, qui sont des émotions qui sont plus régénératrices. Okay? Donc, on a la dimension émotionnelle, en fait, qui est une dimension hyper importante parce qu'on n'a pas appris, premièrement, à reconnaître nos émotions, puis encore moins à les nommer. Donc, les émotions, c'est le langage du corps, ça se vit dans le corps, c'est de l'énergie en mouvement, émotion, énergie en mouvement, et nos pensées, c'est le langage du cerveau. Donc, comment bien ressentir notre corps? Donc, on va enseigner des pratiques sur comment identifier ces émotions, comment les reconnaître, comment reconnaître la sagesse en arrière des émotions, qu'est-ce que mes émotions essayent de me communiquer comme message? Par exemple, la colère, c'est une émotion forte qui essaie de nous communiquer que peut-être que j'ai pas mis mes limites. Peut-être que quelqu'un a outrepassé mes limites, a transgressé mes limites. Peut-être que moi-même, j'ai été au-delà de mes propres limites. Puis là, la colère va se manifester pour nous communiquer un message. Donc, on va aller beaucoup plus loin dans les concepts émotionnels pour comprendre qu'est-ce que les émotions essayent de nous enseigner et aussi enlever la présupposition que certaines personnes peuvent avoir qu'il y a des bonnes émotions puis il y a des mauvaises émotions. Il n'y a pas de mauvaises et bonnes émotions. Toutes les émotions sont valides, en fait.
Les émotions qui sont drainantes essaient, si je comprends bien, de nous passer un message qu'on doit être attentif parce que c'est un message transformateur.
C'est ça, exactement. Exactement. Donc, si je suis déçu, ben c'est parce que j'ai des attentes qui ne sont pas rencontrées. Donc, est-ce que je dois peut-être ajuster mes attentes si je vis ma vie dans de la déception? Donc, c'est des concepts comme ça où on apprend aux gens à apprivoiser leurs émotions, à être capable de les ressentir, à être capable de les accueillir et d'être capable de recueillir le message que ces émotions-là ont. Et l'autre thème dans la dimension émotionnelle, c'est l'autorégulation de notre système nerveux. Donc, comment on peut revenir au calme quand on est pris peut-être dans une émotion drainante à intensité élevée? Comment je peux revenir au calme pour délibérément, volontairement, m'amener à activer des émotions régénératrices à l'intérieur de moi. Donc, on a des techniques pour faire cette transmutation énergétique-là. Donc, ça, c'est le volet. Donc,
c'est des outils concrets pour être capable de mieux gérer son monde intérieur dans les émotions puis tous les aléas de la vie auxquels un individu va faire face.
Exactement. Autant au travail que dans la vie personnelle.
Ben oui, tout ça doit se transposer. En fait, c'est pas juste axé sur le travail, mais sur l'être humain dans l'ensemble.
Exactement. On est très axé sur l'humain. Exactement. On est axé sur l'humain en arrière du chapeau de gestionnaire.
Donc, premier pilier, physique. Deuxième, émotionnel. Quels sont les trois quatrièmes piliers?
Troisième pilier, dimension mentale. Donc, comment je fais pour prendre conscience de moi-même? Donc, c'est à partir de mon mental que je vais activer ma conscience pour vraiment être capable de reconnaître c'est quoi mes émotions, c'est quoi les pensées que je peux me dire. Donc, les différentes composantes de ce que mes sensations physiques, qu'est-ce que je vis? J'ai-tu des tension dans la gorge? J'ai-tu des tensions dans la cage thoracique? Est-ce que ma respiration est courte? Donc, comment on fait pour entraîner notre capacité à s'observer? Et aussi, comment on fait pour reconnaître comment notre attitude influence nos interactions?
Ça, c'est Qu'est-ce que tu entends par attitude versus émotion versus pensée? Là, il y a de la nuance dans tout ça.
Exactement, oui. Il y a beaucoup de nuances. Puis là, je suis conscient que tout ça, c'est de l'intangible. Okay? Tout ça, c'est on ne peut pas y toucher en ce moment. Donc, on parle de concept intangible. C'est important de ralentir puis prendre le temps quand on parle de ce genre de concept-là pour que ça soit plus facilement accessible. Donc, une attitude va être influencée, exemple, par une émotion. Donc, si je suis dans la frustration, ben ça se peut que je rentre dans un meeting puis que je sois déjà plus dans une attitude confrontationnelle.
Donc, on pourrait dire qu'une attitude est quelque chose qui est plus visible par les gens qui nous entourent. C'est quelque chose qui se manifeste clairement, qui peut être décrite, si on veut. La colère, si tu la ressens, elle ne peut pas être décrite par les autres.
Comment que nous, on la ressent, ne peut pas être décrite par les autres, c'est ça que tu dis?
Exact.
Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est propre à nous, notre attitude, c'est juste nous qui peut la décrire. Et les gens peuvent être capables de percevoir qu'il y a quelque chose, mais vraiment, c'est nous, en tant que personne, qui doit être capable de la reconnaître et de l'identifier.
Jean-François, j'ai peur qu'on parte dans un discours philosophique, parce que je pense qu'on pourrait discuter des nuances comme ça. Parle-moi du quatrième pilier, en fait, ou le quatrième thème que vous abordez dans votre cheminement. Si tu avais fini le troisième, évidemment.
Ben, en fait, juste une dernière chose sur le troisième. Oui. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est dans la formation, on amène les gens à faire des exercices en jeu de rôle pour leur faire vivre littéralement quand ils ont des attitudes spécifiques et qu'ils sont en relation avec les autres, c'est quoi le résultat? Et invariablement, dans tous les groupes, on l'a fait des centaines de fois, c'est toujours les mêmes résultats qui sortent. C'est toujours le même impact qu'ils ont quand ils sont dans une attitude X qu'on leur donne comme instruction, en fait. Et c'est ça qui est vraiment intéressant parce que ensuite, on est capable d'identifier c'est quoi nos croyances. Qu'est-ce qu'on croit comme étant la vérité à propos des autres? Qu'est-ce que je me raconte comme histoire à propos des autres qui va teinter ma façon d'être avec eux? Donc, si je rentre dans un meeting puis je le sais que Pierre-Hugues, hey, lui, c'est un fatigant, il pose toujours des questions, il est tout le temps en train de me challenger, puis je rentre dans le meeting avec cette attitude-là que Pierre-Hugues va me challenger, ben il n'y a rien d'autre de possible parce que de la minute que je rentre, je te vois avec ces lunettes-là. Et ça, mon mental contrôle tout le reste de mon corps. Et là, peu importe qu'est-ce que tu vas dire, moi, je vais vouloir, mon pilote automatique va vouloir confirmer ce qu'il croit déjà. Donc, la minute que tu vas dire quelque chose qui croche un peu, je le savais. Tu vois, il recommence encore.
Donc, et ça va prendre toute la place.
Et ça va prendre toute la place. Et ça, quand on est gestionnaire, c'est vraiment important de reconnaître nos biais à l'intérieur de nous puis nos présuppositions parce qu'on peut garder des gens dans notre équipe dans des boîtes où ils ne peuvent pas se développer, ils ne peuvent pas sortir de là.
Et on a une responsable indirectement.
Exact. On a une responsabilité. C'est pas nous qui est responsable de 100% de la relation, mais on a une responsabilité qui est plus grande parce qu'on a un lien hiérarchique direct avec la personne dans notre équipe et une dynamique de pouvoir, un peu comme des parents avec des enfants. Une dynamique de pouvoir où le gestionnaire, ben, c'est le supérieur et a un pouvoir sur déterminer le futur de la personne. Donc, nous, j'aime beaucoup, en fait, un terme qui dit les gestionnaires, les leaders amènent la température. Leader brings the weather. Et quand je rentre avec une attitude qui est plus chargée négativement, je vais affecter toute la salle plus négativement et les gens ne seront pas enclins à être la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, j'ai une responsabilité de me gérer moi-même en tant que gestionnaire avant que je rentre dans chaque rencontre pour m'assurer que je suis dans la bonne attitude, dans la bonne posture mentale pour générer le plus d'impact positif.
Ça me semble assez avant-gardiste comme façon de travailler dans les grandes entreprises. Comment c'est reçu des concepts comme ça quand on est dans des organisations qui ont plusieurs niveaux hiérarchiques, c'est des grosses boîtes? Qu'est-ce qui est vécu? Ben, comment ça se vit, en fait?
Ben, dans nos formations, le module, notre formation est montée d'une certaine façon pour que les gens, quand on arrive à ces concepts-là, ont déjà fait d'autres travails sur eux et sont déjà beaucoup plus ouverts. Commencer le programme avec ce module-là serait pas super gagnant parce qu'il y aurait trop de résistance. Donc, le programme est fait pour que les gens s'ouvrent tranquillement, pas vite, parlent d'eux, parlent de qu'est-ce qui est important pour eux. Et là, ça crée un climat de confiance. Et là, ça crée aussi une ouverture à soi et une ouverture aux autres. Donc, il y a une beaucoup plus... Je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de résistance quand on arrive là. Puis, ce qui était... Plus, il y avait plus de résistance quand on donnait la formation en deux jours parce qu'on était, on n'avait pas le temps de bâtir justement ce muscle-là d'observation de soi-même, de distanciation de ses émotions, d'être capable de voir quelle partie de la relation qui me revient. Maintenant, c'est beaucoup plus facile de faire ça parce que l'humain, on a tendance à ouvrir notre confiance et à être plus à l'aise plus qu'on a d'exposition à un même groupe. C'est la répétition. Donc, quand on est rendu là, ça fait déjà 5-6 fois qu'on se parle. Donc, les gens sont plus dans les concepts, ont mis plus de choses en pratique, ont une meilleure capacité à s'auto-réguler. Donc, c'est très, très bien reçu, en fait. C'est souvent un module fort où les gens ont des prises de conscience qui vont carrément changer leur façon de voir leur impact et leur façon de voir leur équipe. C'est extrêmement puissant.
Ça a l'air, en tout cas, puis tout à fait.
On l'a fait dans tous les contextes, là, que ce soit dans une banque, que ce soit dans une entreprise de télécom, que ce soit dans une entreprise en entertainment ou en transport, ça s'applique à l'humain. C'est ça la beauté du programme, c'est que ça s'applique à l'humain.
C'est ce que je trouve super intéressant. Écoute, le dernier gros volet que je voulais discuter avec toi, c'était comment on peut transposer l'expertise du leadership de soi dans une transformation. Nous, on est beaucoup dans la gestion du poids, puis de l'énergie aussi d'une certaine façon, mais en fait, dans la façon que tu as de parler du leadership de soi, de la gestion de l'énergie, tout est là parce que ça s'applique dans toutes les sphères de notre vie, dans un certain sens. Si on parle d'une mère, une mère qui a des enfants, qui a un travail prenant, puis qui veut changer ses habitudes, ben la gestion de son énergie va être capitale pour être satisfaite de la présence qu'elle a avec ses enfants, sa présence au travail, dans la gestion du plan, comme tu as nommé plus tôt, si elle n'est pas capable de gérer, elle va avoir de la difficulté à suivre un plan de match. Donc, tout le concept que tu amènes du leadership de soi est clairement transférable dans n'importe quel être humain qui veut être une meilleure version de soi-même.
Exact, exactement. Et nous, on s'adresse aux leaders parce que les leaders ont une responsabilité plus grande que quelqu'un qui n'a pas une équipe. Donc, le leader va avoir un impact direct sur la santé mentale de ses équipes par ses agissements, par ses communications, par les valeurs qu'il véhicule. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de s'adresser au leader pour avoir un impact qui est plus large, en fait, et aussi d'avoir un impact positif sur la santé mentale des équipes. Comme tu peux t'en douter, je t'ai raconté mon histoire en début de podcast. Pour moi, la santé mentale, c'est extrêmement important. J'ai perdu 3 amis au suicide. Donc, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'ai failli y passer moi-même. Donc, je sens, puis en ce moment, ça devient de plus en plus important et de plus en plus sensibilisé aussi que c'est une responsabilité des entreprises, donc des leaders, de s'occuper aussi et de véhiculer des bons messages pour s'assurer que les gens sont dans une bonne santé mentale et que s'ils ont des difficultés, qu'il y a un espace pour le communiquer. Qu'il y a un espace pour le dire, pour ensuite que les leaders puissent diriger les gens vers, exemple, des programmes d'aide d'employés, vers des ressources, parce que les leaders ne sont pas des thérapeutes non plus. Mais plus ils sont éduqués et plus ils sont en contact avec eux-mêmes, ils peuvent laisser place à ça.
Donc, j'entends que ça transcende un peu un environnement d'entreprise. On est beaucoup axé sur la performance, le rendement. Puis oui, évidemment, une entreprise doit rendre des objectifs puis avoir une structure qui permet ça, mais ça semble aussi être transformateur dans l'optique où l'entreprise devient aussi un lieu sécuritaire où on peut partager nos vulnérabilités, nos émotions avec nos collègues. Donc, c'est sécurisant, ça devient plus menaçant comme environnement.
Exact. Ben c'est l'objectif. Et c'est les études, en fait, qui ont été faites par Google qui, tu me parles de performance, mais Google a fait des études et les équipes les plus performantes chez Google avaient une chose en commun. Un facteur. Qu'est-ce que tu penses que c'est?
Et la conscience de soi.
La sécurité psychologique.
La sécurité psychologique.
Donc, c'était des équipes où les gens sentaient qu'il y avait une sécurité psychologique, donc qui étaient capables de parler de ce qui ne va pas pour eux et qui n'allaient pas être pointés du doigt, qui n'allaient pas être mis dans un coin, qui n'allaient pas être humiliés, qui étaient capables de faire des erreurs et que ça n'allait pas être retombé sur eux seulement. Donc, les gens allaient les aider à être capables d'apprendre, de se relever. Donc, il allait avoir littéralement une synergie où l'individu est accepté dans ses bons côtés, ses moins bons côtés, sans tomber dans la complaisance, mais en laissant place aux sentiments négatifs. Ça se peut qu'une journée, tu te sentes déprimé. Ça ne veut pas dire que tu es en dépression. C'est juste plus difficile. Puis si tu en parles avec un de tes collègues, puis il t'écoute un peu, il écoute ton histoire, puis finalement, ben, juste le fait de t'exprimer dissipe l'énergie qui était là, juste le fait d'être écouté par un autre être humain, après ça, la journée continue. Donc, c'est un événement qui est arrivé comme ça, ça a pris 5 minutes. Mais c'est important de laisser la place à ça. Et c'est ce qu'on enseigne aux gens, d'être capable de tolérer l'inconfort, d'écouter quelqu'un qui nous parle d'une situation difficile dans sa vie. Et ça, on ne l'a pas appris à tolérer cet inconfort-là avec nous, à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ce qui fait que si, en tant que leader, j'ai de la difficulté à recevoir quelqu'un qui a de la tristesse ou recevoir quelqu'un qui a de la colère, ben j'ai besoin de travailler sur ma propre tristesse, sur ma propre colère. Parce que ma capacité à être capable d'accueillir ma propre tristesse et colère est directement reliée à ma capacité de le recevoir chez les autres.
Mm.
C'est pour ça que ça commence par soi. Si je travaille pas,
on en revient. Moi, je suis pas capable d'accueillir les autres. De soi.
Exact.
Jean-François, si je me trompe pas, on a touché 3 des 4 thèmes de ta
exact
du parcours.
Exact.
Quel serait le dernier thème?
Donc, le dernier pilier, c'est l'énergie spirituelle. Et l'énergie spirituelle, c'est pas en lien avec une religion, ok, ou des croyances religieuses. C'est en lien avec qu'est-ce qui fait du sens dans ma vie, qu'est-ce qui est important pour moi. Donc, mes valeurs personnelles, qu'est-ce que je valorise? Et non pas seulement juste sur les grands thèmes comme « je valorise la famille », mais pourquoi la famille, c'est important pour toi? C'est quoi tes croyances par rapport à vivre ta valeur familiale? Quels sont tes comportements dans la vie de tous les jours qui nous démontrent que c'est une priorité pour toi et que tu l'incarnes, cette valeur-là? Et qu'est-ce qui arrive quand des gens ne respectent pas cette valeur-là, n'honorent pas cette valeur-là? Donc, comment deviens-tu? Donc, c'est vraiment une exploration de ce qui nous tient le plus à cœur et qu'est-ce qui amène du sens dans notre vie. C'est ça l'énergie spirituelle. Donc, c'est une autre dimension où on peut aller puiser, exemple, dans une valeur pour nous aider à remonter notre énergie, ou on peut, selon notre système de valeurs, identifier qu'est-ce qui a été touché dans le conflit que j'ai en ce moment? Quelle valeur a été frustrée, a été brimée? Puis peut-être quelle autre valeur dans mon système de valeurs je peux aller utiliser pour me propulser vers l'avant? Okay? Donc, je vais donner un exemple. Parce que là, encore là, c'est super intangible, c'est super invisible comme concept. Okay? Donc, je donne un exemple. Donc, je suis dans une rencontre. Okay? Puis, je dis quelque chose et mon patron, par exemple, réagit de façon négative. Je donne une idée, mon patron réagit « Ah, merci », puis il passe à d'autres choses. Donc, ça se peut que je me sente manqué de respect. Si le respect, pour moi, c'est important, ça se peut que je sente que le respect n'est pas présent. Mais là, si je reste là, il n'y a rien qui va se passer, on est d'accord?
Mm-hmm.
Donc, si je reste là, puis là, je me raconte, hey, il manque donc bien de respect ce matin, Pierre-Hugues. Je comprends pas, pourquoi il m'écoute pas? J'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Puis je peux me sentir humilié devant mes collègues. Mais exemple, j'ai une autre valeur qui est le courage. Ben, je peux aller puiser dans ma valeur de courage, puis de revenir, puis de dire à mon patron, hey, excuse-moi, Pierre-Hugues, je viens de te communiquer ça, puis j'ai l'impression que t'as pas vraiment reçu mon message puisque t'as passé à autre chose immédiatement. Je suis curieux de savoir, y a-tu quelque chose qui t'a fâché ou qui t'a déplu dans qu'est-ce que j'ai dit? Donc, tu peux aller puiser dans mon courage pour aller de l'avant et m'exprimer sur qu'est-ce qui est inconfortable pour moi. C'est ça,
C'est une grande complexité, c'est une belle complexité, parce que si on reprend cet exemple-là, il faut que la personne soit capable de reconnaître l'émotion de la frustration qui vient du fait de ne pas avoir été respectée, d'analyser comment qu'elle le ressent, d'être capable de puiser une valeur. Donc, tous les thèmes que vous abordez sont intimement liés pour, en fait, expérimenter des relations interpersonnelles, puis une expérience de vie, une expérience professionnelle qui est optimale.
Absolument. Puis le travail sur les valeurs, là, c'est un des travails les plus puissants, en fait, de la formation, parce que plusieurs personnes, on a tous un système de valeurs, mais la majorité des gens ne s'arrêtent pas pour déterminer c'est quoi mes valeurs les plus importantes dans ma vie, pourquoi elles sont importantes, puis comment je les vis, puis comment je deviens quand ils sont frustrés. Les gens ne prennent pas le temps de vraiment aller comprendre leur intérieur, et ça a vraiment un impact puissant quand les gens sont capables de le mettre sur papier et non seulement de le mettre sur papier, mais de le communiquer aux autres membres de la cohorte et d'entendre les autres communiquer leurs valeurs de cette façon-là. Ça amène un niveau de confiance à l'intérieur du groupe qui est indescriptible.
Ça va être extraordinaire, puis une compréhension, j'imagine, parce que tu comprends vraiment, OK, pourquoi un tel agit de cette façon-là, exact. Puis là, ça me fâche plus parce que je comprends pourquoi il fait ça, puis ça fait du sens. Exactement. On peut tout se calmer, puis on continue.
Les gens se rendent compte pour qui ils sont comme humains, et là, comprennent beaucoup plus loin les comportements des autres. Et là, sont capables d'avoir plus d'empathie, là, sont capables d'avoir plus de compassion pour les autres.
Tu m'as demandé de me rappeler pour toi la résilience.
Oui.
Alors, je le ramène sur la table.
Merci de le ramener, Pierre-Hugues. Donc, on a parlé des quatre dimensions énergétiques. Donc, la résilience, c'est directement relié à notre capacité d'avoir une énergie adéquate, abondante et une bonne qualité énergétique. Okay? Puis, avant d'aller plus loin dans l'explication, je te demanderais, c'est quoi ta définition de la résilience?
Ma résilience, je dirais que ce serait la capacité qu'a un individu de se relever. Est-ce que ce serait rapidement ou de se relever adéquatement d'un deuil, d'une problématique ou d'un échec, là, si on peut dire?
OK, donc ça, c'est une partie de l'équation. C'est une partie, en fait, de la définition. Il y a trois parties à la définition de la résilience. Puis la plus commune, c'est celle que tu viens de nommer, que les gens vont exprimer. Mais la première partie, en fait, à ça, c'est la capacité de se préparer à relever un défi. Okay? Donc, la préparation pour être capable de se relever lorsqu'on rencontre un défi et de s'adapter à cette nouvelle réalité-là de façon adéquate. Donc, que le niveau de stress qu'on avait lorsqu'on a fait face au défi redescend, puis maintenant, on s'est adapté complètement. Ça, c'est la définition complète de la résilience.
Ça me fait penser, ce qui me vient, là, c'est comme un peu les principes d'adaptation de l'entraînement. Là.
Exactement. C'est exactement ça.
On récupère puis on s'adapte. Là.
C'est exactement ça. Ouais, donc, après la phase de surcompensation, on s'est adapté.
C'est ça le mot que je cherchais.
On peut y aller puis lever des charges plus lourdes. Donc, c'est exactement ça parce que notre seuil de tolérance a augmenté. Et la résilience, c'est ça. Donc, quand on s'entraîne, donc la capacité de se préparer, c'est en fait, la préparation se fait par des micro-pratiques de gestion de notre énergie. Parce que plus on a de l'énergie, plus on a une grande qualité énergétique, plus on est capable de faire face à des défis qui sont plus grands et de s'y adapter rapidement parce qu'on est capable d'identifier les différentes composantes de qu'est-ce qui vient drainer notre énergie. Pour l'analogie, c'est de prendre une chaudière d'eau, Puis là, les événements qui nous arrivent, les aléas de la vie, c'est des balles de fusil qui passent à travers la chaudière d'eau qui était pleine. Puis là, la chaudière d'eau, elle coule. Fait que les micro-pratiques pour gérer son énergie, c'est comme des bouchons de liège qu'on va venir planter dans les trous pour que la chaudière se vide moins rapidement. Donc, plus je suis capable de mettre des bouchons rapidement, plus je suis capable de préserver mon énergie puis d'avoir une meilleure capacité de résilience.
L'analogie parle complètement, puis je saisis vraiment ce que tu veux dire maintenant avec ta nouvelle définition, ou ta définition améliorée de la résilience. Hey Jeff, c'est vraiment riche comme parcours, comme ce que vous faites comme parcours pour le leadership. J'ai envie de te demander, parce qu'il y a tellement d'informations que j'ai vues, moi, transposables, puis les gens qui nous écoutent sont souvent dans une démarche, ils commencent une démarche de santé, de transformation, de perte de poids, de mise en forme. Les gens utiliseront le terme qui leur convient.
Ouais.
Dans ce que tu fais dans un parcours de leadership de soi, comment tu transposerais ça dans une transformation physique, si on peut dire? Même si on la considère chez Humanovo plus grande que physique, ouais. J'utilise ça juste pour qu'on se comprenne. Mais comment tu la transposerais? Puis quel conseil tu aurais à donner à ces gens-là qui débutent leur transformation?
Ouais, c'est une super bonne question. Je pense que quand on est en transformation, que ce soit en transformation physique ou que ce soit en transformation de passer d'un niveau de gestion à un autre niveau de gestion, ça nous demande de changer notre façon d'opérer à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, littéralement, de faire une mise à jour de notre système d'opération interne, comme on fait sur nos ordinateurs, comme on fait sur nos téléphones, on a besoin de mettre à jour notre façon d'entrer en relation avec nous-mêmes. Donc, ça passe par se gérer soi-même et ça passe par être capable d'être plus conscient de ce qui va venir limiter les obstacles qu'on va rencontrer pendant notre démarche. Donc, la partie conscience de soi, vigilance de qu'est-ce qui va venir me ramener, en fait, au statu quo. Et parce que l'ego nous ramène toujours au statu quo. Il y a une résistance au changement.
Il veut revenir à ce qu'il connaît. Il veut revenir dans ses habitudes.
Exactement, la zone de confort, la fameuse zone de confort qu'on parle aussi souvent. Mais pour se transformer, ça oblige absolument qu'on sorte de notre zone de confort. Et moi, je pense que la transformation, plus elle se fait de façon graduelle, plus elle est durable et plus elle est bienveillante envers nous-mêmes. Parce que notre système a un mode de protection où ce qu'on veut pas rester au statu quo pour rien. Là. On veut rester au statu quo parce qu'on a une perception que changer, c'est dangereux. Et plus le changement se fait lentement, moins il y a cette hyper-vigilance de notre système nerveux qui se met en place.
Donc, c'est pour ça qu'on voit des gens qui font des programmes de transformation très rapides, très serrés. Et tout le système nerveux, lui, tout ce qu'il veut, c'est il va tolérer cet inconfort-là, mais il va vouloir ramener de plus belle la personne dans ses habitudes, puis la figer là.
Exact. Ouais. Puis ça revient à nos systèmes les plus primaires de combat fuite figé, nos mécanismes de survie. Et ça, c'est relié directement à la stabilité de notre système nerveux. Donc, c'est intéressant, là, je viens d'avoir ce spark-là pendant que je te parle. Donc, quand je suivais beaucoup de gens en transformation, en perte de poids, une chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à leur objectif parce que le stress était trop élevé dans leur vie, il y avait trop de pression et leur système nerveux était complètement déclenché la majorité du temps. Donc, quand on est déclenché, on est sur nos mécanismes de survie, on n'est vraiment pas en train de mettre notre attention sur une transformation ou faire face à quelque chose de nouveau. Okay? Donc, qu'est-ce qui est vraiment important, c'est de stabiliser notre système nerveux. Et un outil que j'utilise beaucoup, que j'ai utilisé d'ailleurs dans notre démarche, c'est la cohérence cardiaque qui est une technique de respiration qui va amener chaque individu à ramener notre système nerveux au neutre pour être capable de créer de l'espace entre qu'est-ce qui nous déclenche et notre décision au lieu d'avoir aucun choix et être complètement... Il y a quelque chose qui se passe, puis je réagis automatiquement.
Je suis en réaction.
Donc, la cohérence va vraiment aider à stabiliser le système nerveux.
Je t'écoute parler, puis en fait, je nous écoute parler, puis tu sais, là, on est dans la discussion de la transformation, puis la dernière chose qu'on parle, c'est du type de diète ou du type d'entraînement. Dans le fond, est-ce que tu irais dans mon sens de dire que le résultat d'un sain leadership de soi sera un poids santé?
Absolument. Absolument. Et ça, c'est tellement vrai. Puis c'est justement un alignement sur les quatre dimensions. Pas juste le physique, pas juste l'émotionnel, mais aussi le mental, puis le spirituel, qu'est-ce qui est important pour moi. Parce que si je suis dans un milieu où mes valeurs sont complètement frustrées à tous les jours, mon système nerveux va être complètement instable et je vais être incapable de digérer les bons aliments bio que je me paye qui coûtent extrêmement cher. Ou l'entraînement que je rajoute parce que je pense que c'est en bougeant plus que je vais perdre du poids, mais en fait, mon système nerveux il est moins efficace, puis je risque peut-être de me blesser plus, puis je risque peut-être de avoir moins de résultats, tu sais. Donc, si je prends le temps de reconnaître cette dimension-là, justement, émotionnelle, la stabilité de mon système nerveux et d'intégrer des pratiques à tous les jours, là, tout ce que je fais va me servir.
Jean-François, ton programme de 12 semaines, comment on peut rentrer en contact avec toi? Si ça l'a parlé peut-être à des gestionnaires ou des leaders qui seraient intéressés, comment on rentre en contact avec toi puis comment on s'inscrit? Comment ça fonctionne?
En fait, il y a deux façons. Vous pouvez nous contacter directement, me contacter, m'envoyer un message, par exemple, sur LinkedIn ou Facebook ou Instagram. Vous pouvez me suivre à Jean-François Thibault. On a aussi bâti un masterclass de 45 minutes qui, en fait, accompagne les gens à comprendre la philosophie du programme, pourquoi on a bâti le programme et ce qui est en fait les fondations, puis qui va expliquer plus le programme en détail. Et ensuite du masterclass, bien, vous avez un lien pour pouvoir céduler un appel avec moi pour aller plus loin si les concepts vous ont intéressé. Donc, vous pouvez aller sur le site web qui s'appelle propulsemonleadershipmaintenant.com et entrer vos coordonnées pour avoir accès au masterclass gratuit.
Jean-François, c'était tellement une belle discussion, un beau parcours, une belle philosophie. Je te remercie vraiment. Puis
en passant,
est-ce que tu as un dernier mot à dire?
Juste mentionner que nous lançons une nouvelle cohorte le 9 septembre. Donc, c'est un bon moment, en fait, pour regarder le masterclass parce qu'il y a une cohorte qui va commencer le 9 septembre.
Super. Merci, Jeff.
Hey, merci beaucoup à toi, Pierre-Hugues. C'est vraiment un privilège d'avoir eu l'opportunité d'échanger avec toi ce matin.
Très cool. J'espère que vous avez aimé tout le monde. Jean-François Thibault, c'était un honneur. Et pour le plaisir de la chose, parce que tu es la première personne que j'interview en virtuel, on peut mettre des sons audio et je vais faire une audience qui nous applaudit. Hey, tout le monde, je vous remercie. Bonne fin de journée.